6h03, lundi 17 septembre. Bonne journée. Bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. Une autre journée chaude. Il y en a une autre demain, puis après ça, ça va ressembler davantage à des températures de saison. Donc, ce matin, le ciel est dégagé. 20 degrés, généralement ensoleillé toute la journée. Un peu plus venteux ce matin, mais le maximum aujourd'hui, 29, et l'humidex est à 37. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, avec un minimum de 20. Pour demain, mardi, pas mal de nuages, peu de soleil et 30 % de probabilité d'averse. Ça demeure chaud, 27. Et demain, l'humidex sera autour de 33. Finalement, mercredi, on prévoit du temps ensoleillé avec un maximum de 23 degrés. Puis ça va baisser comme ça d'ici à dimanche. 21 pour jeudi, 19 pour samedi, 16 pour dimanche. Dans le cas du week-end, c'est bien loin, là. Mais on prévoit deux belles journées, mais des journées quand même pas mal plus fraîches. Puisqu'on parle de météo, parlons de ces deux phénomènes. Florence qui a frappé les Carolines au cours de la fin de semaine. Et j'entendais un expert dire, je pense que ça résume assez bien, c'est vrai que l'ouragan a perdu beaucoup d'intensité, mais les pluies sont diluviennes et c'est comme si l'ouragan s'acharnait sur, entre autres, la Caroline du Nord. Le problème majeur, ce sont les inondations. Il y a 1000 personnes qui ont été secourues. On parle de pratiquement une vingtaine de décès jusqu'à maintenant. Et encore là, ce qu'on remarque, c'est l'intensité de l'ouragan, l'impact direct sur les populations. Et ce type de phénomène va se reproduire. Je lisais en fin de semaine dans Globe and Mail des experts en changement climatique qui disent on ne peut jamais tirer une conclusion à partir d'un événement, mais on est en mesure de dire que l'effet de l'activité humaine sur la nature amplifie les scénarios de température extrême, comme on a actuellement dans le cas de la Caroline du Nord. Et il y a aussi ce typhon, Mangkhut, qui a fait 43 morts au moins. On parle de glissement de terrain. Et on est à peu près certain qu'il y a des corps qui sont toujours ensevelis, que donc le bilan va s'alourdir. On pense qu'une centaine de personnes, au moins, pourraient avoir perdu la vie. Il faut ajouter également des décès en Chine. Je sais que certaines centrales nucléaires en Chine étaient particulièrement menacées. Et c'est pas tellement le facteur vent qui est en cause, mais plutôt, là aussi, les pluies abondantes et les glissements de terrain, donc des sols qui s'affaissent et des gens qui partent dans des coulées de boue. Et tout ça en raison de l'intensité de ce typhon. Puis quand vous avez peut-être vu, quand vous regardez les images satellites, c'est quand même impressionnant. C'est pire, Mangkhut, en termes de dommages et de puissance que Florence en tant que telle. Voilà pour ce qui est de ces deux phénomènes qui ont pas mal monopolisé l'attention durant la fin de semaine. On revient à la campagne électorale. Alors, là, je vous le dis tout de suite, je pense que les partis politiques n'ont plus rien à promettre. Là, l'Internet haute vitesse, le rénover les écoles, le plan numérique, c'est pas mal annoncé, là. Les cadres financiers ont été présentés. Il nous reste deux semaines de campagne et je pense que les deux semaines vont porter sur quelques dossiers, comme celui de l'immigration, on l'a vu en fin de semaine, la santé, qui demeure une préoccupation assez majeure, la question de l'environnement, qui est aussi un thème qui est important pour beaucoup de Québécois, et on le voit chez les plus jeunes également. Et donc, François Legault s'est enfargé, on le sait, là. Quand vient le moment pour lui de parler du certificat de sélection du Québec, du statut de résident permanent puis de citoyen canadien? Mais c'est vrai qu'il y a des tests sur les valeurs canadiennes, mais c'est pour obtenir la citoyenneté. Et le problème de M. Legault, c'est que là, il nous explique que finalement, il va mettre tellement de bémols que l'histoire des tests, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, je vous donne un exemple. Il dit quelqu'un qui est âgé, qui n'arrive pas à apprendre le français, il ne sera pas appelé à quitter. On n'a pas l'intention non plus de séparer les familles. Alors là, tu dis, mais quel genre de test? Moi, je veux bien là, qu'on informe les nouveaux arrivants sur les valeurs, les principes Et même Maxime Bernier, qui, lui, avec son parti populaire, veut réduire le nombre d'immigrants, s'attaque aux multiculturalistes, il sera notre invité un peu plus tard ce matin, dit la même chose. Alors, M. Legault a dit, moi, je vais baisser le nombre, pour après ça nous dire qu'il va peut-être les augmenter un peu plus tard. T'as Jean-François Lisée qui veut pas aller dans la guerre des chiffres. Et là, M. Legault s'est trompé. Il a dit, je cite, j'aurais pas été ben bon génie en herbe, parce qu'il parlait d'une période, par exemple, pour le certificat de quelques mois, alors que c'est 3 ans. Je regardais aussi, durant le week-end, les temps d'attente. Quand vous déposez vos documents, selon l'endroit, le pays, là, ça peut être très long. Alors, on aura un débat sur l'immigration ce matin, mais moi, je vous le dis depuis le début, on peut débattre du nombre. Notre capacité d'accueil, la vérificatrice l'a dit, on l'a échappé. On sait par contre que la deuxième génération se francise et que pour la première, c'est extrêmement difficile. C'est comme vous, demain matin, vous déménagez en Allemagne, vous allez devoir apprendre l'allemand pour être fonctionnel. Et si vous avez des enfants qui fréquentent l'école allemande, c'est bien sûr qu'eux vont être pas mal mieux équipés pour vivre dans ce pays-là. Alors, donc, la question de l'immigration. Et il y a le sondage Main Street qui est publié tous les jours. Quand vous regardez la tendance depuis le débat, la CAQ glisse. Et le portrait, le dernier, là, il y aura une mise à jour un peu plus tard ce matin, c'est la marge d'erreur. Là. Ça veut dire que la CAQ domine encore chez les francophones, ce qui pourrait lui donner une victoire, mais très serré, probablement un gouvernement minoritaire. Et donc, c'est du coude à coude avec les libéraux. Parti québécois remonte un peu, Québec solidaire aussi. Alors, c'est pas réglé, là. Les gens qui pensent que c'est final bâton, j'ai bien l'impression que les deux dernières semaines, plus ça va être serré, plus les échanges risquent d'être assez violents entre les partis. Monsieur Couillard, de son côté, nous a expliqué qu'il voulait charger la taxe aux produits qu'on achète à l'extérieur. Sur le fond, il a parfaitement raison, parce que c'est une concurrence déloyale. Puis là, je sais, là, vous allez chialer en disant « Moi, j'en paye assez de taxes puis d'impôts. Pourquoi je paierais des taxes sur des produits que j'achète aux États-Unis, que je fais venir en ligne? » Puis bon. Et là, la question, c'est comment tu vas payer ça? Est-ce que Amazon va vouloir, par exemple, imposer la taxe? Est-ce que d'autres fournisseurs qui envoient des colis par la poste ou encore par la livraison vont facturer la taxe de vente du Québec? Maudite bonne question. Là, l'industrie au détail, puis Peter Simons, on le sait, on l'a même vu appuyer Québec solidaire sur cette question-là. Et là, M. Couillard s'est enfargé en disant, bien là, vous allez devoir payer, sinon vous n'aurez pas votre colis. Puis là, il finit par dire que non, ça va être, par exemple, chez Post Canada, puis pour payer, on ne pourra pas forcer quelqu'un à percevoir la taxe, mais on va vous la faire payer quand vous allez aller chercher votre colis en question. Alors, c'est un peu le ton de cette campagne électorale, puis évidemment, le prochain débat. Il y en a deux, il y en a un en anglais et l'autre sur TVA. 6h12, Marc, il y a déjà quand même pas mal de retard à cette heure-ci. Parfait, on poursuit la revue de presse. Dans Le Devoir, ce matin, il y a, et le titre est très juste, « Confusion autour de la gratuité scolaire ». Alors, c'était la rentrée il n'y a pas si longtemps. Vous avez dû payer une facture que l'école vous a remise. Et là, vous parlez avec des gens, puis vous dites, coudonc, pourquoi il y a des différences importantes? En principe, c'est la gratuité, le coût. Il y a des trucs que vous devez payer comme parent, là. Mais, par exemple, des montants qui étaient prévus pour des sorties. Je donnais l'exemple la semaine dernière d'une activité de cross-country qui a été annulée parce que là, on n'a pas le droit de facturer aux parents. Puis là, on donne des exemples de disparités entre des écoles. Et le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, disait qu'il y avait quand même des écoles qui poussaient pas mal fort sur le crayon, là, puis qui envoyaient des factures salées aux parents. Et on donne des exemples. Il y a un compte, 175 $ dans une école pour le programme international, 200 dans l'autre, des frais de 150 qui s'ajoutent pour l'option de concentration de musique. Là, c'est le cas d'un parent qui est cité. Alors, j'aimerais ça, si vous avez un moment aujourd'hui, ce matin, de m'envoyer les... peut-être avez-vous même constaté ou même eu une discussion avec l'école en disant « Mais il me semble, pourquoi est-ce qu'on paye pour ça? » L'exemple, là, c'est qui est ridicule, dans le fond, qui est la boîte de papier mouchoir dont je vous parlais la semaine dernière. Là, tu ne peux pas la facturer aux parents. La commission scolaire t'en donne deux pour ta classe, pour l'année. Puis là, finalement, tu dis aux parents, y a-tu moyen de... peut-être pour vous autres, d'en trouver. Alors, si jamais vous avez des exemples comme ça, vous avez sursauté en voyant la facture, puis vous parlez avec un ami, quelqu'un de la famille qui a un enfant du même âge que le vôtre, puis vous dites, pourquoi lui, ça ne coûte pas cher? Moi, j'ai des histoires, là, puis je ne peux pas rentrer dans tous les détails, de transport scolaire, là, où des factures se sont ajoutées cette année, alors que c'était gratuit l'an passé. Je parle toujours de l'école publique, là. Et des parents qui disent, mais pourquoi j'ai à payer ça? Je ne payais pas ça l'an passé. Puis c'est la même école. La commission scolaire a décrété que. Et là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, il faut que tu assumes la facture. Un mot également sur cette histoire qui s'est produite samedi. Une femme qui a été tuée par un chien, son chien, en territoire rural, et qui a également tenté de s'en prendre à un enfant. Donc, la femme est décédée. Pour, en fait, en protégeant le bébé qui était attaqué par le chien. Et évidemment, vous l'aurez deviné, c'est un boxer pitbull qui a attaqué la fillette qui a 2 ans et demi. Et ça s'est passé à peu près à l'heure du souper samedi soir. Et la femme, donc, est décédée sur place, tuée par le chien. Je sais que à Montréal, on ne comprend pas ça, là. Qu'il faut encadrer davantage et pas attendre que le chien soit agressif ou manifeste son agressivité. Mais je m'excuse, là, mais c'est pas n'importe qui devrait avoir accès à ce type de chien. Je suis d'accord sur le principe qu'on peut pas s'en prendre qu'à une race. Puis là, vous allez me sortir 56 000 études. Mais le pitbull, il fait des ravages. Quand il attaque, c'est pas banal, c'est pas la petite morsure. Et le problème de l'administration Plante, c'est ça. C'est que le lobby du pitbull l'a emporté. Et c'est une réglementation laxiste. Québec n'a pas pris ses responsabilités. Fait qu'on se ramasse avec une situation comme celle-là. Les gras trans qui sont bannis au Canada, il faut faire attention, là. D'abord, ça doit faire 15 ans qu'on parle de ça. On a voulu permettre aux entreprises de trouver des alternatives. Très bien. Et là, on va annoncer donc officiellement les gras trans qui sont utilisés, ce sont des huiles, là, principalement, dans des produits de boulangerie. Un des objectifs, évidemment, c'est la conservation à plus long terme des aliments. Donc, le gras trans qui est utilisé dans la bouffe industrielle, dans une série de produits, devra être remplacé. C'est du poison pour le cœur, pour les artères, on le sait, contribue au mauvais cholestérol. Les études le disent depuis longtemps. Et là, ça va se faire. Mais encore une fois, les entreprises ont un délai pour pouvoir s'ajuster. Il y a un excellent dossier à Radio-Canada sur le prix de l'eau. Ça a été un des thèmes abordés lors du débat des chefs. Et quand vous regardez ça, là, on a reçu pour 1 milliard de litres d'eau du Québec, là, 3 millions en redevances. C'est une joke. Alors, les données du ministère de l'Environnement montrent clairement qu'en Ontario, les redevances sont 7 fois plus élevées qu'au Québec, notamment auprès des entreprises comme les embouteilleurs. Nous autres, on donne l'eau au Québec. Puis il y a deux façons, il y a deux prix. Pour les gens qui se servent de l'eau, comme la bière, par exemple, là, et les boissons gazeuses pour l'embouteiller, ou encore pour les gens qui l'utilisent dans la fabrication. Puis là, on peut penser aux usines là, pour qui l'eau est une matière première essentielle. Puis là, j'ai regardé les chiffres de Radio-Canada. Je vous le dis, c'est une farce. C'est 70 $ par million de litres d'eau utilisés par des entreprises comme, par exemple, Pâte et Papier. Alors, nous, on donne notre ressource naturelle comme si c'était inépuisable. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on donne ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce matin, il faut que je vous parle de Justin Trudeau. Dans Globe and Mail, Justin Trudeau, là, lui, il ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis avec les lobbyistes. Je dois vous dire que la nouvelle de ce matin fait pas mal réfléchir sur la façon de faire de M. Trudeau. Alors, en gros, les libéraux ont donné un code de conduite. Et il ne faut pas que les lobbyistes, puis il y en a une tralée, puis on sait que le gouvernement Trudeau est très sous influence des Google de ce monde, des Amazon, des géants du web. C'est pour ça qu'on est très, très frileux quand vient le moment, par exemple, de prélever les taxes ou leur demander ou les forcer à prélever les taxes. Mais quand vous regardez ça, là, dans le cas de ces lobbyistes, là, Justin Trudeau, là, tu te rends compte qu'il y a deux types de financement. À 200$, un lobbyiste ne peut pas aller à un événement où le ministre auprès duquel il fait du lobbying est présent. OK? Et là, on se rend compte qu'il y a à peu près une douzaine d'événements où le lobbyiste paye 1 500$ par année, ça s'appelle le Club Laurier. Puis dans le deux tiers des cas, les lobbyistes sont présents alors que le ministre, sous influence potentielle, se trouve là. On sait que M. Trudeau, avec l'Aga Khan, n'avait pas l'air, avant de se faire ramasser par la commissaire à l'éthique, d'être bien, bien préoccupé par ça. Puis un grand discours, puis la patte blanche, puis on va montrer que, finalement, notre financement est correct. Alors, le Globe and Mail a recensé au moins une douzaine d'événements qui semblent violer les règles parti ou au moins là-dessus. Je ne sais pas si vous avez suivi les scandales à connotation sexuelle en fin de semaine. Aux Pays-Bas, il y a une étude, une recherche journalistique qui montre que 20 des 39 cardinaux, évêques et autres, ont étouffé un scandale d'abus sexuels qui a fait plusieurs victimes entre 1945 et 2010, donc une période de 65 ans. Et c'est carrément là ce qu'on appelle en anglais du cover-up pour permettre à des prêtres pédophiles non seulement de s'en tirer, mais de poursuivre les agressions. Et c'était connu en haut lieu. Il y a 4 enfants qui ont été abusés, 16 autres ont dû être transférés parce qu'on ne voulait pas que le prêtre fasse d'autres victimes. Mais on n'a pas retiré le prêtre de la proximité de d'autres enfants. Ça, c'est un des cas. Puis avec Alain Proxime, Prunkin, tantôt, on va en parler justement de ces nombreux scandales. Le cardinal Ouellette, qu'on ne voyait pas il n'y a pas si longtemps, lui, il considère que c'est un phénomène nord-américain puis qu'il ne faut pas s'énerver avec ça. Or, toutes les églises du monde sont confrontées à. Et il y a même un des cardinaux qui a dit ce qu'on est en train de vivre, c'est le 11 septembre, si vous voulez, d'église catholique. Et puis le Dalai Lama, aurais-tu pensé de ça, du Dalai Lama, avait connaissance d'agressions sexuelles commises par des moines bouddhistes qui enseignent. Et c'est l'agence France Presse qui a rendu publique cette nouvelle. Et on se demande exactement ce que savait le Dalai Lama puis qu'est-ce qu'il a fait. Ça fait un peu le tour de les nouvelles. Je vous rappelle également que c'est le 10e triste anniversaire de la crise financière de 2008 avec l'effondrement. On se souvient du papier commercial puis de ce que ça a coûté sur papier toujours à la caisse de dépôt. Puis comment on avait créé, conçu des produits financiers toxiques. Puis qu'on achetait ça, puis que les grands gestionnaires de portefeuille vendaient ça. Et de mémoire, je pense qu'au Québec, une des institutions qui a le mieux résisté à cette crise-là, c'est le Fonds de solidarité du Québec. Je pense, là, je dis ça sous toute réserve, mais je me souviens d'avoir vu les chiffres à l'époque, là. Et le fonds n'était pas tombé dans le panneau. Je ne vais pas en dire autant de la caisse à l'époque de Henri-Paul Rousseau. 6h23 minutes. 40 secteurs de Repentigny, c'est vraiment problématique.